Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose une lecture qui va être suivie d'autres textes. Mais nous allons lire d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Alors, c'est un passage que nous connaissons bien. Il est rapporté aussi dans l'évangile de Matthieu, mais j'ai choisi Luc ce soir. Et puis, nous allons donc nourrir un peu cette première pensée et nous reviendrons à d'autres textes sur un sujet tout à fait particulier. Vous allez naturellement le découvrir au fur et à mesure, et je pense que c'est avant tout une exhortation, c'est un encouragement à la sagesse, à la prudence, à la vigilance, et puis c'est une projection sur les réalités de notre monde. C'est surtout cela, les réalités invisibles, on peut le dire de cette manière. Alors, donc, dans Luc, je vous ai dit, Luc chapitre 4 et le verset 5. Le diable, l'ayant élevé, Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Alors naturellement, l'introduction est assez brutale, puisqu'il y a un personnage qui apparaît en filigrane dans toute l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité, et là il est dénoncé, il est mis à jour. Nous avons commencé par ce mot, le diable. Voilà. Alors, nous les chrétiens familiers de la lecture de la Bible, de l'Écriture sainte, on sait ce qu'il en est. Et non seulement parce que la Bible nous en parle, mais parce que nous avons aussi expérimenté que le mal, que le malin, c'est une réalité certes invisible, un être pensant et intelligent, et qui a pour vocation, eh bien tout simplement, de faire le mal. Alors on l'appelle, et Jésus l'appelle dans le Notre Père, le malin. Délivre-nous du malin. Alors il est décliné sous différents noms, dans d'autres passages, il est question de Satan, il est question du dragon rouge dans le livre de l'Apocalypse, et puis d'autres termes comme ça. Alors, il nous est dit qu'il s'est adressé à Jésus et il lui a montré, en un flash, en un instant, puisque c'est le mot qui nous est proposé, tous les royaumes de la terre. Imaginez-vous. Alors, naturellement, c'est une vue de l'esprit, mais les choses sont devant nous pour nous communiquer un message, pour nous dire que en effet, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a un être de domination, et nous voyons que c'est sous la forme, eh bien tout simplement, d'un flash, d'une vision, on pourrait dire, une vision panoramique, puisque on peut voir cette élévation, et il s'adresse à Jésus dans ce que l'on a appelé les tentations du Christ dans le désert, au bout de 40 jours d'épreuve, et il nous est dit qu'il lui montra en un instant, pour montrer finalement, toute la rapidité, le côté instantané, tous les royaumes de la terre. Et qu'est-ce qu'il y avait à voir, les royaumes de la terre, avec cette proposition, parce que c'est pas autre chose qu'une proposition, pour séduire Jésus, pour circonvenir finalement à la raison et à la sagesse du Fils de Dieu, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Voilà, je te donnerai. Là, l'adversaire, l'ennemi, le diable, se présente comme le souverain. Il se présente comme Dieu, en quelque sorte. Et c'est pas Dieu le Père. C'est pas le Dieu de Jésus-Christ. C'est pas celui que nous découvrons dans la Bible, qui est tout à fait à l'inverse. Mais les allures sont prises de cette manière pour induire en erreur, eh bien, Jésus, tout simplement. Je te donnerai toute cette puissance. Donc, dans les nations, parmi les peuples, parmi les royaumes, il y a donc une puissance. On la voit encore aujourd'hui. Quand on parle de la puissance de certains grands pays qui dominent le monde aujourd'hui, hein, vous, je ne vais pas vous les citer, mais hein, ils sont dominants, comme nous, peut-être, en France, hein, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, voilà, on parlait de la France comme une puissance. Hein, aujourd'hui, c'est révolu, hein, naturellement. Mais bon, toujours est-il, il est question de puissance, et qui va avec la puissance, c'est la gloire, tout simplement. C'est-à-dire l'élévation, tout ce qu'il peut y avoir qui flatte l'homme, qui le remplit d'orgueil, qui le remplit aussi finalement de pouvoir, enfin toutes sortes de choses. Je te donnerai la puissance et la gloire de ces royaumes. Alors il y a un mensonge, parce que le diable ne dit jamais la vérité. Bien qu'il essaie de faire croire que quand il parle, ou quand il suggère, ou quand il suggestionne, eh bien c'est toujours la vérité. Mais ça c'est du mensonge, c'est toujours du mensonge derrière. Alors il est dit, mais je te donnerai donc cette puissance, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Elle ne lui a pas été donnée. Il faut bien le dire, quand on regarde à travers les textes bibliques, c'est une usurpation, c'est un vol, c'est tout simplement une spoliation, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est absolument un mensonge éhonté. Je la donne à qui je veux, à qui je veux la donner. Mais il y a une condition, vous avez remarqué avec moi. Si donc tu m'adores, parce que c'est pas gratuit, ça n'a rien à voir avec l'évangile qui est gratuit. Hein, c'est tout à fait l'inverse. Il y a toujours du donnant-donnant et à quel prix? Et on va le voir, on va le découvrir, à quel prix? Si donc, eh bien tu m'adores, qu'est-ce que c'est adorer? Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, et nul autre. On le sait, ça, hein, c'est dans les principes élémentaires que nous trouvons dans les 10 commandements, les premiers. D'ailleurs, ça commence comme ça. Hein, ça commence comme ça. Donc, si tu m'adores, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je ferai en sorte, je suis en train de paraphraser, je ferai en sorte que moi qui suis le maître, le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs de cette terre, de cette planète Terre, alors à ce moment-là, si tu te plie à mes desiderata et que tu te prosternes devant moi et que tu m'apportes tes hommages, tu m'apportes ce que moi j'attends de toi, alors à ce moment-là, eh bien, je m'arrangerai, je ferai en sorte que tous ces royaumes de la terre, quel détournement du plan que Dieu avait choisi pour Jésus, hein. Mais on sait que Jésus en a cet écho. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et si quelquefois, même dans le jardin de Gethsémané, il y a eu une hésitation, enlève et détourne de moi cette coupe, en tous les cas, Jésus dira, il se reprendra et dira, mais non, je suis venu pour cette heure et j'accomplirai uniquement, seulement, parfaitement, totalement, ta volonté, Dieu, Père, mon Père. Donc, on comprend qu'il y a là toute une démarche qui est faite pour induire Jésus en erreur, l'amener à perdre la vision du plan de salut, parce que c'est ça, c'est un plan de rédemption, d'expiation, qui va passer par la mort pour Jésus. Entre autres, le diable lui dit, bah, écoute, hein, tu vas pas mourir, mais moi, je vais te faire vivre. Enfin, je vais te faire vivre temporairement, parce que je pense que Jésus n'est pas homme, mais Jésus est Dieu. Alors, elle sera tout à toi, Jésus lui répond tout simplement, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul, c'est ce que nous avons décliné, eh bien, il y a un instant. Donc, dans ce texte, on peut dire qu'il y a la séduction de l'orgueil, et dans la première tentation, et vous allez voir le crescendo, vous voyez voir le plan subtil, tout ce qu'il peut y avoir de malin, de malignité, de méchanceté, et je vous ai dit tout à l'heure que le diable est un être pensant et intelligent. Ouais. Et dans la première proposition, c'était la souffrance. Jésus est en souffrance de la faim, après 40 jours de jeûne. Imaginez-vous ce que ça peut être. Et le diable va s'approcher de lui en disant, mais écoute, tu vas pas rester comme ça. Si tu es le fils de Dieu d'abord, premièrement, c'est une condition pour ébranler et mettre le doute, hein, en quelque sorte, si tu es le fils de Dieu. Alors tu fais de ces pierres des pains. Et là, tu vas pouvoir te substanter, tu vas pouvoir finalement apaiser ta souffrance qui est celle, eh bien, parce que tu meurs de faim, tout simplement. Donc nous voyons que la stratégie, c'est tantôt la souffrance, ou alors l'autre versant, on pourrait dire, de la stratégie diabolique, c'est la jouissance. Souffrance d'un côté, jouissance de l'autre. Quand le diable veut soumettre les pauvres hommes que nous sommes, on n'est pas Jésus, hein. Bon, on voit comment Jésus a pu surmonter cette tentation, mais d'une manière glorieuse et victorieuse. Mais nous, le diable peut nous attaquer à travers la souffrance pour nous amener à renier Dieu. Où est ton Dieu? Tu dis que tu crois à un Dieu qui t'aime, regarde, il te laisse tomber, tu es en train de mourir sur place, tu souffres dans ton corps, tu souffres dans ton âme, tu souffres de tous les côtés. Et tous ceux qui sont autour de toi te font souffrir. Donc c'est la souffrance. Ça, c'est une arme du diable. Et quand il ne peut pas nous avoir par la souffrance, comme ça a été le cas de Jésus, eh bien, il essaie de nous avoir par la jouissance. C'est-à-dire de nous montrer, en levant un coin du voile de certaines réalités invisibles, eh bien, qu'il peut nous donner ce que nous avons besoin et ce que nous désirons. C'est-à-dire une sorte de gloire. Enfin, je l'appellerai pas la gloire parce que ça serait véritablement contredire la parole de Dieu. Je dirais de la gloriole. C'est-à-dire de la vanité. Et je voudrais quand même préciser une chose. À travers toute l'histoire des hommes, même si ces gens n'ont jamais lu ce texte, des trois tentations de Jésus au désert, ils savent très bien que c'est une réalité à laquelle on peut accéder, s'en emparer, pour avoir la gloire, pour avoir la puissance, pour avoir de l'argent, pour avoir, eh bien, le pouvoir, pour avoir toutes sortes de choses. C'est le monde de l'occulte. Au lieu de prier Dieu, est-ce que je dois le dire, il prie le diable. À travers les sciences occultes, à travers le spiritisme, à travers l'occultisme, à travers la magie, à travers tout ce monde ténébreux qui est dénoncé dans la Bible. Et nous voyons que c'est bien cela qui est proposé, eh bien, à Jésus dans ces circonstances. Et accédant à cette dimension de gloire, de gloriole, accédant à cette illusion de pouvoir, on devient à ce moment-là un super-homme. Oui. L'Évangile nous dit de nous humilier devant Dieu parce que c'est lui qui va nous élever. Mais le diable veut élever les hommes en les séduisant, en les amenant, eh bien, l'adorer pour qu'il nous confère, parce qu'il a des pouvoirs, hein. Il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a des pouvoirs pour séduire les hommes, et non pas pour les élever, mais pour les abaisser. D'abord, les abaisser pour les détruire, pour les tuer, les faire mourir. Autant Dieu veut la vie, et la vie éternelle, autant le diable, lui, veut détruire et les conduire à une vie éternelle de souffrance et de tourment, loin de la présence de Dieu. L'Évangile nous rapproche de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons lui dire tellement proche notre Père qui est aux cieux. Mais le diable, eh bien, se prête dans l'esprit de certaines personnes qui ont déjà des propriétés, qui ont déjà des semences dans leur cœur, dans leur âme, de gloire, de puissance, de domination, de toutes sortes de choses semblables. Voilà, pour être, en quelque sorte, eh bien, que le monde soit soumis à eux. Et on va faire un petit tour d'horizon, mais vous allez voir que c'est une vieille histoire qui dure depuis toujours, parmi les hommes, à travers tous les temps et tous les siècles. En quelque sorte, le diable dit à Jésus, eh bien, si tu m'adores, c'est-à-dire c'est une prosternation, c'est une adoration, c'est un détournement de cette adoration qui est unique, dirigée vers Dieu, pour l'amener, eh bien, justement, à se prosterner devant un monde qui n'est pas le monde de la lumière, qui n'est pas le monde de l'amour, mais le monde des ténèbres et le monde de la haine. Et nous avons autour de nous, à moins que nous soyons véritablement candides, et que nous comprenions pas comment le monde fonctionne, parce que le bien existe, le mal existe. Les ténèbres existent. La lumière existe, la vérité existe, mais le mensonge et l'erreur existent aussi. Et vous pouvez démultiplier ça, mais à l'infini. Il y a toujours son correspondant. C'est très manichéen ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même une réalité. Si quelqu'un me dit ce soir, ou en me le disant à un moment ou à un autre, mais le mal n'existe pas, alors dites-moi, vous ne prenez pas les informations? Vous ne lisez pas les journaux? Vous ne voyez pas un peu le monde dans lequel il est? Il y a du bien dans le monde, ça je veux bien le croire. Mais il y a aussi sa contrepartie, terrible et redoutable, qui est, finalement, eh bien, tout simplement le mal. Et celui qui est derrière le mal, il s'appelle le malin. Jésus lui donne véritablement son nom véritable. Alors quand on est élevé comme ça, quand on a marché, quand on a mordu à l'hameçon de la proposition, par une voie ou par une autre, nous y sommes parvenus, soit à travers la recherche dans les sciences occultes, soit à travers des confréries, à travers des accointances que nous pouvons avoir dans des sociétés secrètes, dans des choses qui ne se disent pas, mais des choses qui existent. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est vrai qu'on peut recevoir des pouvoirs, on peut recevoir des avoirs, hein, toutes sortes de choses. Et on devient, par orgueil, une idole. Ah, qu'est-ce que je suis en train de raconter ce soir dans l'actualité? Eh oui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que je ne m'en prends pas aux personnes. Mais il faut voir plus loin. Et je pense que les chrétiens ont besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que un homme tout simple, il ne paraît pas, mais je pense que le monde a besoin d'adoration. Il a besoin d'adorer, et à travers certains autres de ses semblables, il va adorer le diable. Alors, soyez pas surpris de ce que je vais dire. Je ne parle pas des hommes. Hein. Je parle de l'arrière-plan. On a levé le coin du voile ce soir et on va voir ce qu'il y a derrière. On va voir qui est le grand marionnettiste. Celui qui tire les ficelles, dont personne ne croit à l'existence. Personne va confesser, mais moi je crois au diable, à moins que ce soit vraiment des satanistes, ou des gens qui sont véritablement eh bien, là dans toute cette dimension infernale, qui pratiquent spiritisme. Mais une chose qui est certaine, c'est que les gens disent plus aisément « je crois en Dieu ». Et quand ils confessent « je crois en Dieu », ils sont prêts à prendre le nom pour jurer. Et j'ai jamais vu quelqu'un jurer au nom du diable. Ah non, surtout quand il arrive quelque chose, eh ben c'est toujours Dieu qui est responsable. Donc, le grand marionnettiste, lui, il travaille dans l'ombre. C'est celui qui travaille dans l'anonymat le plus complet. Et il fait tout en sorte que personne ne sache ce qu'il fait. Mais au bout de ses doigts, il y a, si vous permettez l'expression, il y a des ficelles qu'il tire sur certains personnages auxquels il a promis « je te donnerai la puissance, le royaume, la gloire, et là les gens viendront se prosterner devant toi, ils viendront se courber, ils viendront t'adorer. » Et derrière, qu'est-ce qu'on adore? Qu'est-ce que l'on adore? Eh oui, c'est quelque chose. C'est la séduction. Et vous savez, la séduction, elle se caractérise par une chose, c'est que la séduction ne tient pas compte de la vérité, elle croit au mensonge. C'est comme ça qu'on est séduit. Alors des séductions, il y en a de toutes sortes. On pourrait les multiplier à l'infini, hein, des gens qui peuvent être séduits d'une manière ou d'une autre. Et des gens bien pensants, des gens braves, même peut-être des gens qui réfléchissent, des intellectuels et tout ça, ça ne rentre pas en ligne de compte tout ça. Tout le monde peut tomber dans le piège. Parce qu'il est amorcé selon les convoitises qu'il y a dans son cœur. C'est Jacques qui nous dit ça, hein. Ah, l'homme tombe dans le péché parce que finalement il y a une semence à l'intérieur qui ne demande qu'à germer, il suffit de la mettre dans les bonnes conditions, d'allumer la flamme et ça s'enflamme, tout simplement. Une sorte d'envoûtement. Oh, quand on entend certains discours, on se dit, mais les gens ils ont plus la raison, ils ont plus le bon sens, c'est pas raisonnable, parce que ça va tellement dans des sens, dans le désordre. Naturellement. Et tout ça amène le désordre. Ce soit un désordre au niveau de la pensée, ce soit un désordre au niveau du corps. Eh ben oui, hein, des gens qui se détraquent avec toutes sortes de substances, hein, soit pour échapper à la souffrance, ou soit parce qu'ils veulent s'enivrer, on parle d'ivresse, hein, à travers toutes sortes de substances, de toutes sortes d'illusions. Alors l'envoûtement, et tout ça conduit à l'adoration. Adoration, c'est tout un mot, hein, qui finissent par des cultes occultes. Vous savez l'histoire du veau d'or, hein. En ce moment même, Dieu était avec Moïse sur la montagne d'Horeb, Mont Sinaï. Et il était en train de donner ses lois en bas dans la vallée. Il y avait le peuple d'Israël qui avait fait des expériences extraordinaires de la sortie d'Égypte. Alors Dieu parlait en haut et eux, ils étaient en train de faire un veau d'or. Et vous savez comment ça s'est terminé? Dans l'orgie et la débauche. Séduction. Et ils adoraient ce veau d'or. Oh, ça quelque chose. Ça leur a coûté cher, hein. Ça leur a coûté cher. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai cette gloire, je te donnerai ces applaudissements, je te donnerai cette popularité, le monde de l'art, quel qu'il soit, sous quelque forme qu'il se décline, ce soit à travers la musique, parce que ça enivre la musique, la voix, il y a des belles voix qui sont là où les gens sont, à travers les paroles de certaines chansons, à travers les talents, à travers les dons, parce que je veux bien croire que quand on est tout à fait dedans, là, hein, quand il est dit « je te donnerai cette gloire », ou là, c'est pas quelques dizaines de groupies, mais ce sont des milliers et des milliers et des milliers. Et pour certains, c'est le monde entier. Hein. Il y a certains artistes qui finalement ont une réputation mondiale. Hein. Bon, ils en ont eu, et puis il y en a encore aujourd'hui. Hein. Parce que bon, voilà, ils ont reçu quelque chose. Mais où et de qui ont-ils reçu cela? Il y a des noms naturels qui peuvent être exploités, qui peuvent être travaillés, qui fait que bon, voilà, un tel artiste, peintre, chanteur ou autre chose, puisse avoir reçu quelque chose. Mais l'homme est toujours insatisfait, il en veut toujours plus. Et on s'aperçoit que c'est tout un monde qui gravite autour de ces personnalités. Voilà. Alors, il y a dans le monde des arts, il y a le monde du sport aussi, hein. On fait de certains des idoles, hein. Bon, c'est vrai que le sport, on n'est pas un champion si on ne s'est pas entraîné. Mais dans tous les cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, il y a une perfection, on perfectionne, on travaille. Ça, c'est sûr, hein, quoi qu'il en soit, hein. Et le monde du sport, où là, eh bien, certains sont véritablement des idoles, parce que bon, ils font des choses, et ils battent des records, et toujours de plus en plus de records. Vous avez remarqué, on se demande jusqu'où ils vont pouvoir arriver, hein, dans la course, dans l'athlétisme, ou enfin, n'importe quelle discipline sportive, hein, des prouesses, voilà. Alors, quelquefois, ils y vont avec un petit peu de... C'est stupéfiant, quand même. Les prouesses, voilà. Et on se dit que voilà, il y en a un qui a gagné, et puis dans deux ou trois ans, il y en a un qui va faire encore mieux, et encore mieux, encore mieux. Ah, on a gagné une fois la Coupe du Monde de football, hein. C'était du délire, non, vous en souvenez? Vous étiez né? Parce que c'est tellement vieux maintenant, hein. Ça fait 20 ans, hein. Ben oui, mais bon, j'ai rien contre, parce que je sais qu'il y a des amis du football, ici, et je voudrais quand même pas me faire lyncher. Non, mais c'est... Ça m'arrive de regarder quelquefois un match, mais je veux dire que c'est tout ce qu'il peut y avoir, ce qui véhicule derrière de surhumain en quelque sorte. Ça reste pas dans les normes, hein, et c'est souvent l'occasion. Vous savez, quand une équipe a perdu, on les voit, ils pleurent tous. Ils pensaient gagner, ils ont perdu. C'est terrible. Avec une pensée, la prochaine fois on va les avoir. Hein. Quelquefois ça peut attendre longtemps. Hein. Voilà. Mais quand ça marche bien, quand le succès est au rendez-vous, vous avez le président de la République, vous avez là tous les télévisions du monde entier qui sont là et qui sont en train d'ovationner, et ça, quelquefois, on s'aperçoit que ça déborde et ça dérape, hein, tellement les choses sont, tellement la joie est grande. On peut dire ça. Si tu m'adores, c'est pas seulement un trophée, c'est pas une Coupe Davis, hein, c'est pas seulement voilà. Et ça va beaucoup plus loin. En politique, les idoles, oh, on a de tristes souvenirs. Hein. savez comment un homme sorti de rien, venu de rien, parce que c'était rien, excusez-moi de le dire, mais bon, il y en a certains qui méritent d'avoir, et qui fascinent un peuple, qui fascinent des peuples entiers. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur promet que la vie sera meilleure. Il leur promet qu'ils auront du travail. Il leur promet ceci et cela. Et ça se termine dans le sang, dans la guerre et dans le feu. Et tout le monde croit. Quand on entend des commentaires d'un certain personnage d'il y a 80 ans passés, on se dit, mais comment un peuple, comment des hommes, comment des femmes? Parce qu'il y avait aussi, il y avait aussi des supportrices. Peuvent s'accrocher à des paroles d'un homme qui a des paroles de démon, des paroles de haine, des paroles de destruction, des paroles d'une telle supériorité nationale, d'une race supérieure aux autres, qui finalement bafoue tout ce qui lui semble être des sous-hommes pour les détruire et les exterminer. Comment peut-on applaudir et comment peut-on rassembler des milliers et des milliers, voire des milliers de personnes, et quand ça se termine dans un bain de sang? Je me dis, mais c'est quelque chose, hein. Il doit bien y avoir quelque chose derrière. Croyez bien que dans toutes ces disciplines dont nous avons parlé, ce n'est pas Dieu qui est derrière. Si tu te prosternes et si tu m'adores, quand on sait que les emblèmes de la croix gammée, c'est un signe occulte. Quand on sait que derrière, eh bien là, un programme de 1000 ans de bonheur, parce que c'était ça l'hitlérisme, hein, 1000 ans de bonheur, ça s'est terminé au bout de 5 ans, de guerre acharnée et de guerre totale, je me dis, mais c'est fou, et qu'il y avait encore des gens à la fin, alors que tout était perdu, alors que le pays était complètement ruiné en flammes, qui continuait à vouloir aller jusqu'au bout. Hein. Le dictat, mais nous, on n'a pas à critiquer notre voisin à côté, là, à l'Est. Hein. Vous savez, Napoléon et Louis XIV, ils n'ont pas fait mieux, et puis il y en a d'autres. Hein. Les idoles politiques. Ah, faut faire attention à cela, c'est dangereux. Le monde religieux ne fait pas exception, il faut en parler. Quand vous avez des milliers et des milliers de gens qui sont là à se prosterner le genou en terre pour bénir, pour adorer un homme parce qu'il a fait un discours tout à fait quelconque sur des lieux communs, aimez-vous les uns les autres, etc. Mais c'est pas lui qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Et que vous avez des milliers, et voire peut-être parfois davantage, même des millions qui se rassemblent. Je me dis, mais où est Jésus dans cette affaire? Lui, l'humble de Nazareth, avec son message, avec ses paraboles, qui disait n'en parlez pas à personne quand il avait fait un miracle. On en est loin. Hein. Le religieux dans toutes les dénominations, que ce soit le bouddhiste, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le christianisme, et dans bien d'autres... Et là aussi, hein, le politique est mêlé avec le religieux avec le politique, et ça fait jamais bon ménage. En tous les cas, les résultats, c'est pas le bonheur des hommes. Si tu te prosternes et tu m'adores, eh bien, je te donnerai cette puissance et tout ce pouvoir. Hein. Il y a le dieu Mammon ici. Pouvoir, gloire, puissance. Il y en a qui ont bien compris, et ça peut-être que c'est un moteur extraordinairement puissant, l'argent. Voilà. Qu'est-ce que les hommes ne feraient pas pour avoir de l'argent? Tuerait père et mère. Dans certains cas, c'est ce qui s'est passé. Hein. Parce que l'argent, ça vous donne une aura, ça vous donne de la reconnaissance, une réputation, et on va vous appeler monsieur, on va se courber devant vous. Il y a des gens qui savent, hein, qui ont compris ça. Le succès, la gloire, si tu me donnes la gloire, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Vous connaissez, non? On ne chante pas le dimanche matin. Hein. Ça serait quand même assez étonnant. Ben oui, mais je me voyais déjà, oui. Eh oui, mais c'est ça hein, derrière. Hein. La réussite dans les affaires, ou là, c'est pas que c'est des fortunes colossales. Quand vous avez une grande partie de l'humanité qui meurt de faim et qui n'a rien, et que vous avez de plus en plus un petit groupe de plus en plus restreint avec tout détenteur de la fortune du monde. L'illusion et la magie aussi. Parce que ça donne un pouvoir d'étonner les gens avec des choses extraordinaires, le miracle. Le miraculeux, faites attention, parce que le miraculeux, faut savoir, faut bien discerner s'il vient de Dieu ou s'il vient de l'autre. Parce que le diable est capable de faire des miracles. Hein. Eh oui. jusqu'à séduire les élus. Hein. On arrive dans des temps, aujourd'hui, il faudra faire certainement attention. Hein. Les faux miracles, la puissance, le pouvoir, la richesse, etc., etc. On va aller un petit peu plus loin, si vous permettez. Ça, c'était simplement pour montrer où on en est, où le monde en est aujourd'hui, en faisant une comparaison. C'est pas des histoires d'hier, c'est des histoires d'aujourd'hui. Hein. Dans Genèse, chapitre 3 et versets 1 à 6. On va le lire, hein. Je vais peut-être pas trop faire de commentaires, mais ça va nous étayer. Alors, on a vu celui qui est nommé, il n'est pas nommé dans le livre de la Genèse, mais il va apparaître. Hein. Alors, Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent, tiens, c'est curieux. Encore un mot, hein. Vous savez que l'emblème du diable, c'est le serpent, hein. Et c'est bien d'autres choses. C'est le lion et c'est le serpent, entre autres, hein. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est le doute qui est instillé dans l'esprit d'Ève. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais elle le sait. Elle le sait. Et savoir et ne pas l'être, et pas faire, c'est autre chose. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Oui. Pour Adam et Ève, qu'est-ce que ça voulait dire? Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Parce qu'ils ont été les premiers vivants et les premiers à mourir. Alors le serpent dit à la femme, et c'est ça ce qui est important. On peut le présenter avec un petit peu de moquerie. Mais vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et c'est ça l'orgueil. C'est ça, cette idée de révolte et d'indépendance, de rupture avec Dieu. Et c'est le diable qui le dit. Hein. Mais Dieu sait, ben Dieu sait tout, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront l'intelligence. Que vous serez comme Dieu. Ah oui, parce que le diable a toujours voulu être comme Dieu, hein. Alors que le diable est un être créé et que Dieu est un créé. Voilà, Dieu est Dieu, tout simplement, connaissant le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à vue. Vous regardez tout le côté agréable, hein, tout le côté séducteur. Il était bon, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est exactement la tentation qui a été donnée à Jésus. Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, cette puissance, cette richesse et tout cela, etc. Vous voyez ? Elle prit de son fruit, elle a essayé, Jésus a refusé dans notre première lecture, et il en mangea, il en donna à son mari, et qui était auprès d'elle, et il en mangea, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà, quand vous êtes tombé dans le piège, vous voyez maintenant ce qu'il en est. Quand on est tombé, quand on a subi l'assaut de la tentation et qu'on a succombé à la tentation, alors à ce moment-là, on s'aperçoit. Et l'homme va avoir des réactions à ce moment-là. Il va avoir des relations, il va s'apercevoir que finalement, eh bien, il n'est rien, il est nu et il va se cacher. Oui. Poison mortel du mensonge. Dans la première lecture que nous avons faite, à l'adresse de Jésus, c'était un mensonge. Si tu m'adores, si tu fais ceci et cela, la vanité de l'existence, la misère de l'existence des hommes, tout simplement. Et vous savez comment ça se poursuit? On va lire encore un autre texte. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais on va lire maintenant dans l'Épître aux Romains. Et vous allez voir comment ça se propage, toute cette histoire. Chapitre 1, verset 18. Ça commence comme ça. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Eh bien justement, l'Évangile libère la vérité. L'Écriture sainte nous donne d'accéder à la vérité, pas la vérité des hommes, pas des approximations, pas des extrapolations, mais la vérité. Jésus le dira, ta parole est la vérité. Et pour venir à la connaissance de cette réalité invisible et spirituelle, il faut passer par la Bible qui nous enseigne et qui nous dit la vérité. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé pour qu'il nous conduise dans toute la vérité et pas dans le mensonge du diable. Y compris la connaissance qu'il y a un monde qui est un monde de mort, un monde de destruction, un monde de séduction. Et un peu plus loin, il nous est dit que les hommes ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Eh oui, voilà. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible, présentant l'homme corruptible, les oiseaux, des cadavres, les reptiles, etc., etc. Voilà, c'est ça la question. Aimer la vérité nous conduira toujours, toujours de plus en plus, dans la révélation de la vérité. Mais si nous ne l'aimons pas, nous allons être livrés à nous-mêmes, et c'est pour ça que les hommes tombent à un moment donné. De toutes sortes de travers et tout ça, par vaine gloire. Tout ça parce qu'ils veulent être comme des dieux, vous serez comme Dieu. Mais non, l'homme est l'homme, et Dieu est Dieu. Et pourtant Dieu est rempli de compassion pour sauver l'homme, s'il le veut, s'il le croit. Ils sont devenus fous. On est dans un monde de fous. Où on met tout en œuvre pour la paix, la liberté des peuples, pour que les gens puissent vivre et manger à satiété, avoir le bonheur, etc. Et c'est le contraire qui se produit. Parce qu'on s'aperçoit que les matériaux que nous utilisons, ou ce que les intentions ou les plans, sont des plans en contradiction avec le plan de Dieu. Parce que pour que l'homme soit heureux, il faut d'abord qu'il passe par le Seigneur. Et non pas par les efforts humains, et non pas par je ne sais quelle société idéale ou l'âge d'or. Non. Le seul bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Le vrai bonheur, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite, on commence une nouvelle existence où Dieu est le centre, où Jésus-Christ est le centre. Et là, l'autre peut toujours nous susurrer à l'oreille. On sait ses plans et ses intentions. C'est de nous faire dévier et de nous faire dérailler. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible avec des images d'hommes. Quand je vois et que j'entends comme vous tout ce que l'on peut dire sur un homme, que les gens pleurent, que gens, je l'ai entendu, il est mon Dieu. Wap! Bon, excusez-moi, hein. Je ne veux pas avaler le micro, mais quand même. Il est mon Dieu. Je me dis, mais qu'il y ait des talents, qu'il y ait des capacités. Mais d'en arriver là, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en homme corruptible. Moi, je ne veux pas dire, encore une fois de plus, c'est pas le personnage, mais c'est ce qui amène, ce qu'il y a tout autour. Il y a des gens qui disent, mais moi, je donnerai ma vie. Et l'argent qui est investi dans tout ça, hein. Ouais. C'est quelque chose, hein. Quelque chose. Et l'imitation que l'on a. Parce que vous savez, une idole, on veut imiter son idole. Si dimanche vous me voyez venir avec une banane et un blouson de cuir avec une tête de mort dans le dos, et puis, ah bon, là vous direz Alain, il n'est pas bien. Non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est... Mais je me dis derrière, c'est pathétique, c'est terrible, quelle misère morale! Où on entend parmi les gens, quand ils disent, mais c'est Jésus? Non, on ne parle pas de Jésus. On parle de Pierre, de Paul et de tout ce que vous voudrez, mais c'est pas Jésus. Hein. Et derrière, vous avez remarqué, il y a tout un environnement religieux aussi. Quand on connaît un petit peu la vie, et c'est vrai qu'on a quand même des informations aujourd'hui, mais de nos plus grands artistes français de la chanson populaire, je ne veux pas citer de nom, hein, mais les plus grands, vraiment des gens qui n'étaient pas seulement des chanteurs, mais des stars et puis des gens adulés, ils avaient tous un arrière-plan religieux, superstitieux. Et on comprend que peut-être eux, ces gens-là, et souvent ils sont sortis de la misère. Hein. Ils sont sortis de la misère, mais peut-être qu'il y a eu quelque part une rencontre, hein, certains se réclament d'autorité religieuse, défunte, hein, parce que bon, c'est souvent comme ça que ça se passe, et comme en quelque sorte porte-bonheur, comme bonne étoile, etc. Et puis à un moment donné, ça éclate. Ils sortent là un tube, ils sortent une chanson qui va faire le tour du monde et tout ça, et puis ils vont devenir, hein, ce sera pas une petite aventure, mais une grande aventure. Et quand ces gens disparaissent, eh bien voilà, il y en a un homme politique qui a dit, avec la disparition d'un tel, c'est comme si on enlevait à Paris la Tour Eiffel. Ben, la Tour Eiffel, elle existait avant Paris, hein? Non, moi je pense que c'est... Non, au départ, à la création, il y avait déjà la Tour Eiffel, on a mis Paris tout autour. Parce que vous savez qu'on a mis Paris en bouteille? Eh oui, l'idolâtrie des hommes. L'idolâtrie des hommes. Elle, tout cela ne vient pas de Dieu, mes amis. C'est pas Dieu. Dieu, ce Dieu d'humilité, ce Dieu qui va amener l'homme pour l'élever jusqu'au ciel et pas le faire descendre dans la terre et dans la poussière. Oh, méfions-nous hein, des idoles, parce que vous savez, un jour Paul se trouvait à Lystre avec Barnabas, je crois. Et ils ont pensé que Paul et Barnabas étaient des dieux descendus sur terre. Ils ont voulu véritablement leur donner là une gloire. Et Paul a dit non mais vous êtes tombés, nous sommes des hommes comme vous. Et comme ils n'ont pas voulu recevoir l'hommage, à un moment donné, ils ont lapidé Paul. Vous vous rendez compte? Comme quoi, vous savez, la haine, l'amour est près de la haine. Hein? L'idole, on l'illumine, on la fait rayonner à un moment donné comme une étoile. Et à un moment donné, eh bien, on la met au feu. L'idolâtrie des hommes. Puis je termine sur la marque d'appartenance maintenant. Parce que vous savez, quand on est chrétien, on a une marque d'appartenance. Pas une marque, un signe d'appartenance. Pour nous, c'est dangereux. Le chrétien se distingue, premièrement, par une vie qui émane du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Avec une vie morale. Avec, des œuvres ou des actes ou des actions qui vont nous caractériser. Comme ayant été avec Jésus, comme les premiers disciples, hein, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. S'ils les reconnurent, c'est qu'il y avait quand même des choses qui étaient probantes. Hein. Eh bien, vous savez, de l'autre côté, c'est pareil. Les adorateurs de l'ennemi, les adorateurs du diable, même s'ils ont leur religion, même s'ils donnent de l'argent ici ou là, parce que je veux bien croire que quelquefois, ils ont un argent fou et puis ils le distribuent, etc. Hein, bon, ça, ça rentre pas en ligne de compte. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a toujours une marque d'appartenance. Et regardez dans les derniers jours, et ça je pense qu'on s'y approche. On y arrive, hein, mes amis, on y arrive. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, je vais lire un petit peu le passage. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Tiens, c'est curieux. Une bête. Un animal. Curieux. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. L'agneau, douceur. L'agneau, c'est l'image de Christ. Je suis doux et humble de cœur. Mais qui parlait comme un dragon? Donc, quand Jésus nous enseigne sur les faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des loups cruels. Je continue. Cette bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Faudrait étudier le livre de l'Apocalypse, hein, mais je rentre pas en ligne de compte, hein, parce que on n'a pas le temps. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Ouais. Elle obligeait, par la séduction, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre en vue des hommes. Vous savez, quelquefois, il y a des shows de music-hall. Il y a le feu partout, hein? Waouh! Dans le temps, quand au début de la télévision, il y avait une bougie dans un coin, et puis un rideau noir, et puis un projecteur, c'est tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, on a fait des... C'est extraordinaire, hein, ce que l'on peut faire. Bon, ça, c'est des illusions. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image... On est dans le monde de l'image aujourd'hui, hein. Afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. C'est radical, hein. Si tu te prosternes, eh bien, à ce moment-là, je te donnerai. Mais là, c'est l'envers du décor, hein. Vous savez, on est dans un monde où il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le conformisme. Ouais. Si vous ne dites pas comme tout le monde, si vous n'êtes pas la mode, si vous n'êtes pas ceci et cela, vous êtes vraiment un martien. Hein, ouais. Alors, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur le front. La main, c'est l'activité. Le front, c'est la pensée, c'est l'intelligence. et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, je lis, hein, 666. Et quand vous voyez souvent dans les groupes de formation rock, c'est souvent du 666. C'est pas le fait du hasard, tout ça. Moi, je dis que la Bible, elle nous dit la vérité, elle nous annonce la vérité. Et à travers tous les temps. Hein. La marque, le signe, le sceau. Et quand on voit que on se sert de l'effigie d'une idole pour en faire véritablement, eh bien, le centre de notre vie. Mais c'est une idolâtrie quasi religieuse, hein. Le monde religieux ne fait pas mieux. Le monde païen et le monde à l'extérieur ne fait pas mieux, hein. Tous ces vêtements, tout ce qu'on peut récupérer d'une manière ou d'une autre. Il y avait une jeune femme qui disait, eh bien voilà, dans tel concert où je suis allé, hein, mon idole avait laissé tomber un mouchoir. Il s'était peut-être mouché dedans avant ou essuyé la sueur. Elle a dit, mais je l'ai gardé, ça sentait bon. Je me moque pas, hein, et c'est triste. C'est triste. Mais il y a une idolâtrie aussi religieuse et chrétienne aussi, hein, qui est tombée aussi dans la même chose. Vous savez, les voiles et puis les reliques, etc., etc. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on met ça sur le même plan. Hein. Que ce soit chrétien ou que ce soit mondain, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que les vrais chrétiens qui sont convertis à Jésus-Christ, dont la vie a été transformée, c'est fini ça. Et le Seigneur nous en a délivré, nous en a libéré. Marque. Quand il est question de la marque, c'est la marque du diable. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Le signe et le sceau. C'est ce qui caractérise les enfants de Dieu véridiques et authentiques. Nous portons le sceau de Jésus-Christ. Et vous savez, un sceau, c'est pour sceller. Nous lui appartenons, et lui nous appartient. C'est un sceau. Hein. Les effigies, on a parlé de la croix gammée. Oh, c'était pas une croix de paix, hein. Pas du tout, c'était le contraire. Je vois de plus en plus de gens qui sont tatoués. Alors quand on a été tatoué peut-être avant sa conversion, c'est une chose. Et quand on se tatoue, après, il y a un problème. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Il y a des gens qui sont... Non, il n'y a rien. Partout, hein. Il y a des gens qui sont quand même vraiment des tapisseries. Hein. Ah oui. C'est pas sérieux ce que je suis en train de vous dire, non? Ceux qui se promènent avec des crânes. Moi, il y a une chose qui véritablement m'interpelle, et même chez les enfants ou les plus jeunes. Écoutez, nous sommes des hommes et nous vivons. Pourquoi déjà transporter, balader les effigies d'une vie qui a disparu, c'est-à-dire les crânes et les squelettes, et de les avoir pareil, sur soi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? C'est du conformisme. C'est du panurgisme. C'est les boutons de panurge, vous savez, c'est faire comme tout le monde. C'est terrible, hein. Ce sont des faux dieux, tout ça, hein, quoi qu'il en soit. Je termine. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et au verset 12 et 13, je lis, hein, ce sera la conclusion. Jésus lui répondit au diable, hein. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, après l'avoir tenté de toutes ses manières, la souffrance, la jouissance. Le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce moment favorable va se retrouver principalement dans le jardin de Gethsémané et également à la croix du calvaire. Pour jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde de vie de Jésus, le diable va encore faire l'offensive pour essayer finalement de le détourner de sa mission. Alors, les enfants de Dieu sont les enfants de la vie. On est bien d'accord. Les autres représente par les signes, par les marques, par tout ce qu'il se donne et qu'il montre au grand jour, sans croire au diable peut-être. Mais le grand marionnettiste sait très bien diriger ces individus pour séduire les foules, pour enthousiasmer les foules, pour eh bien faire ce qu'il a à faire. Alors quand un tel personnage meurt, que penser de ça? Alors bien sûr, il va y avoir tout un déploiement, etc., toutes sortes de choses. Même des personnages les plus en vue de notre nation. Eh bien, vous savez, Jésus va répondre, c'est pas ma réponse, mais Jésus va répondre à cela. Qu'est-ce que nous pouvons penser quand il y a ces personnages populaires qui disparaissent, ou d'une manière ou d'une autre, peu importe. Eh bien, moi, j'ai lu dans Matthieu ceci. Et ça, c'est une parole de Jésus. Vous savez ce qu'il dit? Il y a un homme qui s'approche de lui et il lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevenir mon père. » Vous connaissez l'histoire? D'aller ensevenir mon père. Après, je te suivrai. Après, je te servirai. Après, je serai ton disciple. Après ceci, après cela. Mais à force de dire après, on n'arrive à jamais. Vous savez ce que Jésus répond à cet homme? Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Vous avez compris? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Écoutez, c'est pas un disciple qui l'a dit. C'est pas un apôtre. C'est Jésus lui-même. Parce que on ne peut pas servir de maître à la fois. Soit on est tout à Jésus. Soit dans la discrétion ou peut-être avec un ministère. Mais de toute façon, c'est Jésus qui en retire la gloire. C'est pas l'homme. Pasteur ou évangéliste ou orateur. Non, non, lui il disparaît, il reste dans l'ombre et Jésus est mis en lumière. Ça, c'est une chose. Maintenant, quant aux autres, Jésus dira, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. Parole de Jésus. Vous savez, un homme qui disparaît, c'est toujours une catastrophe. Un homme qui meurt, c'est une catastrophe, puisque c'est une créature de Dieu. Et c'est une créature qui, normalement, dans le plan de Dieu, est voué à l'éternité et à la gloire du ciel. Et quand on voit que, à travers une toute petite vie, même si elle était, somme toute, ou peut-être un petit peu mise en avant à la lumière ou en gloire, mais tout ça c'est rien, c'est de la vanité. Ce qui est important, comment, et il est dit, comment un homme pourrait-il sauver son âme? Comment pourrait-il gagner le monde s'il perdait son âme? Voilà. De toute façon, on est le reflet, nous sommes les reflets de ce que nous avons été, et si Jésus est dans notre vie, c'est pas possible qu'on nous soit de l'autre côté. Pas possible. Alors, si tu m'adores, oui, nous adorons le Seigneur, nous adorons Jésus, nous n'avons pas peur de le dire et de le faire, nous nous rassemblons pour glorifier Jésus, mais il n'est pas question de laisser la place à l'autre, hein. Parce que c'est du mensonge. Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Donc laisse les morts enterrer leurs morts, tout simplement. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que c'est vrai que nous pouvons nous poser beaucoup de questions dans l'actualité, mais Seigneur, cette actualité, elle revient souvent, et bien périodiquement, à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que nous pouvons et avoir peut-être, eh bien, Seigneur, une certaine reconnaissance de certains talents, de certains dons, de certaines capacités, de hommes qui ont reçu quelque chose. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, voulons croire, Père éternel, que, eh bien, nous n'oublions pas, Seigneur, ce qui nous a été rappelé ce soir. Tu adoreras ton Sauveur, ton Seigneur. Tu adoreras Dieu, lui seul. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Parce que nous voulons rester véritablement, et bien là, dans la fidélité de ce que tu nous as donné. Seigneur, nous croyons que l'idolâtrie fait partie de ce monde. Elle faisait partie du peuple d'Israël, pourtant le peuple élu. Elle fait partie aussi de notre siècle, de notre monde d'aujourd'hui, où là les hommes, en l'absence de Dieu au fond de leur cœur, eh bien se cherchent des faux dieux, se cherchent à adorer la créature plus que le Créateur. Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, nous voulons te demander, Seigneur, et notre prière ce soir, eh bien, c'est de te prier pour nos contemporains. C'est de te prier pour ces jeunes gens et ces jeunes filles. C'est de te prier pour ces hommes et ces femmes. C'est de te prier pour tous ceux qui nous environnent, dans notre famille et à côté et dans toutes les alentours. Seigneur, parce que nous croyons, Père éternel, que le plan d'évangile, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, elle nous vient à travers le message de l'évangile, puisque c'est l'évangile qui donne la foi. Alors, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, nous te demandons, Seigneur, d'éclairer ces hommes et ces femmes, que les écailles de leurs yeux puissent tomber, et qu'ainsi ils comprennent qu'en effet, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est la personne de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.